carrefour des arts. Théâtre et patrimoine, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, Jean Anouilh aurait eu 100 ans le 23 juin 2010. Jean Anouilh qui a écrit entre autres Le voyageur sans bagages, Le bal des voleurs, Le rendez-vous de Senlis, Antigone, Ardèle ou la Marguerite, Colombe, L'Alouette, L'invitation au château, Pauvre Bitos ou Le dîner de tête, Beckett ou L'honneur de Dieu, Le boulanger, La boulangère et Le petit mitron, etc., etc. Avec nous pour évoquer la place dans notre patrimoine théâtral de celui qui reste comme l'un des plus grands dramaturges français du XXe siècle, Michel Fagadeau, directeur de la Comédie des Champs-Élysées, et qui, 14 ans après l'avoir monté une première fois, a mis à nouveau en scène une pièce de Jean Anouilh créée en 1951, Colombe, avec cette fois à l'affiche, dans les deux rôles principaux, Annie Dupéré et sa fille Sarah Giraudeau. Ce spectacle a recueilli 4 nominations pour les Molières qui seront décernées le 25 avril prochain. Michel Fagadeau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons, si vous le voulez bien, commencer par essayer de découvrir à travers cette pièce les grands thèmes de l'univers de Jean Anouilh. Alors, je rappelle le canevas. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Julien, idéaliste impénitent, part au service militaire et se voit obligé de confier la jeune fille qu'il aime, aux Colombes, à sa mère qu'il déteste, la célèbre comédienne Madame Alexandra, femme cynique et autoritaire. Et Colombe, ravissante, ingénue, va découvrir le monde du théâtre. Superbe occasion pour nous, spectateurs, de pénétrer dans l'univers si féroce, si drôle, mais aussi si vrai de Jean Anouilh, et en l'occurrence si brillamment révélé. Michel Fagadeau, chez Colombe, l'illusion de l'amour toujours, ça ne va pas durer longtemps.
Justement, je trouve que Colombe renferme pratiquement les thèmes majeurs du théâtre d'Anouilh. Évidemment, ça se passe dans un théâtre qu'il connaît bien, puisqu'il a travaillé avec Jouvet, les cabotinages, les manies, les... Bon. Donc, c'est la vie du théâtre, la vie des coulisses. Mais beaucoup, ce thème qui est pour lui très important, dont il parle souvent dans les autres pièces, le thème de l'amour, le problème du couple, la famille, l'argent, et aussi les relations sociales entre l'employé, l'employeur, le thème aussi des rapports de force, du temps qui passe, du vieillissement. Ce qui ressort avant tout en dehors de la vie du théâtre dans Colombe, c'est évidemment le couple et le thème de l'amour. C'est à la fois optimiste et pessimiste, parce qu'on sent dans les pièces d'Anouilh une recherche continuelle de l'idéal de l'amour, qui malheureusement ne semble pas possible ici. Et comme dans Roméo et Jeannette, comme dans un petit peu le rendez-vous de Senlis, d'après ce que je me souviens, le choix vers l'amour éternel veut dire ou bien solitude, qui va être le cas de Julien dans Colombe, ou bien quelque part ailleurs. Et en même temps où je dis, parce qu'on me dit souvent, pour des gens qui ont vu Colombe, c'est très cruel. Je trouve pas, je trouve qu'il y a une forme de réalité, de réalisme, parce que Madame Alexandra, donc la mère de Julien...
La comédienne, quoi, la grande comédienne.
La grande comédienne. À quel prix est-elle devenue une grande comédienne? Parce qu'elle a galéré. Maintenant...
Oui, sept maris, non, c'est ça, non, à peu près.
Sept maris, elle essaie de jouer encore les jeunes femmes, alors que, bon... Mais elle lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette obstination que vous avez tous à vouloir à ce que l'amour soit éternel? Tout change, tout se dégrade, tout évolue. Pourquoi voulez-vous absolument que l'amour soit éternel? Et elle lui dit, si tu persistes à son fils Julien, si tu persistes dans cette volonté, dans ce désir, tu seras toujours seul.
Et effectivement, c'est un véritable bal des solitudes, hein, cette pièce, parce que le personnage de Julien, c'est cet idéaliste, finalement... Ils n'aiment les autres qu'à travers l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. La Colombe, telle qu'il l'imagine, elle n'existe pas. Parce que la Colombe va se révéler finalement très cynique dans la pièce. Elle va devenir, à partir du moment où elle prend ses distances avec Julien, elle devient très dure.
Oui.
Extrêmement dure.
Oui, c'est très intéressant parce que Il y a deux côtés, il y a Julien et son choix, et il y a Colombe, et c'est divisé en deux sur les opinions. Vous savez, ce problème de couple, on le sent aussi chez Hanoï, il y a deux personnes, il y a un plus un, il n'y a pas un. Et c'est ce que je ressens, moi, ce que Hanoï, Tanoï parle aussi, chacun, il y a un plus un, donc chacun doit pouvoir garder son identité. Et on ne peut pas, doit pas imposer, d'ailleurs c'est ça qui fait la solitude de Julien, on ne doit pas imposer à l'autre ses volontés à soi, sa façon de voir la vie à soi, ses choix. Chacun doit garder son identité, sa liberté de choix, de vie, en essayant d'harmoniser la vie en commun avec l'autre. Or, Julien, par autodéfense d'ailleurs, veut imposer, veut inventer, veut créer, veut façonner une colombe dont lui a besoin à son image. Et c'est ce qu'elle lui reproche. Et est-ce qu'on peut lui donner tort ? Est-ce qu'on peut donner tort à Colombe de vouloir, bon, choisir sa façon de vivre, sa façon de voir la vie ? Elle dit, dès la première scène dans Colombe, on sent que Julien pratiquement se suicide. Quand il lui dit, tu ne dois aimer que ce que moi j'aime. Elle lui répond, mais j'ai qu'une envie, moi, c'est d'être heureuse.
Ouais, on n'est pas du tout sur le même registre. Hein. Et quand vous parliez de Madame Alexandra, donc, et toute la bagarre qu'elle a dû mener dans sa vie pour y arriver, à la fin, ce qui est quand même étonnant quand elle est avec Colombe, enfin, moi, la Colombe du tout début de la pièce, c'est que ça l'insupporte qu'on parle d'idéal. Elle revendique haut et fort une certaine médiocrité au nom du réalisme, quoi. C'est ça, quoi.
Oui, mais elle lui dit aussi, être femme, ça veut dire susciter chez l'homme la possibilité de créer, de faire, d'entreprendre des actions dont il ne se croyait même pas capable. En même temps, c'est là, effectivement, la cruauté des choses. C'est qu'on parle beaucoup d'amour pendant cette scène, pendant les scènes, avant que n'intervienne la fin de la scène. On parle beaucoup de l'amour, de l'idéal de l'amour. Madame Alexandra dit « Je n'ai vécu que pour l'idéal ». Et en même temps, et contrebalancer constamment l'argent et la réalité de l'argent. Et finalement, on a l'impression, bon, et c'est là que c'est cruel et c'est dommage, on a l'impression que c'est l'argent qui triomphe toujours sur l'amour. Alors que quelques secondes après, Colombe lui a demandé, mais que faut-il faire pour atteindre un tel idéal et pour susciter chez l'homme des actions d'une telle dimension? Et Madame Alexandra lui répond, mais ma petite, être femme, tout simplement. Et 3 minutes après, on parle d'action, on parle d'argent qu'il faut vendre, et l'amour est balayé, complètement balayé, et c'est l'argent qui prend le dessus. Et c'est un des thèmes importants aussi.
Oui, celui de l'hypocrisie, celui des rapports de force. Alors, le paradoxe de cette pièce, quand il y a une grande originalité, il me semble, dans cette pièce, parce que Théâtre d'Hanoï, c'est donc un hymne à l'absolu qu'on ne peut pas atteindre. Mais finalement, le personnage, moi, celui personnellement que j'ai trouvé le plus sympathique dans la pièce, c'est celui du demi-frère de Julien, c'est Armand. Or, Armand, lui, il a décidé de composer avec la vie telle qu'elle est. Lui, il ne fait pas de grands rêves. Il sait qu'il n'est pas très courageux. Il sait qu'il n'a pas d'élan au long cours. Il ne croit pas tellement aux femmes. Il aime être avec elles, tirer parti d'elles. La seule chose, qu'il essaye de ne pas être un salaud. Mais c'est l'anti-héros d'Hanoï. Et pourtant, c'est lui l'homme le plus, peut-être le plus sympathique de la pièce. Non ?
Oui.
Merveilleusement joué, d'ailleurs.
Oui, oui. Mais le problème, c'est que c'est lui qui a le charme et c'est lui qui propose la facilité et la frivolité, la facilité de la vie.
Mais avec une certaine sagesse.
Et avec ?
Une certaine sagesse.
Bah, oui, un réalisme. Maintenant, tout dépend, vous savez, tout dépend. Moi, en tant que metteur en scène, oui, pour ce qui est de Colombe, j'étais obligé et je me fais l'avocat de tous les personnages et leur trouver leur justification, leur pourquoi, leurs excuses dans leur comportement. Et la seule excuse qu'elle lui trouve, parce que c'est quand même grave, il devient l'amant de sa belle-sœur. Mais il dit, sa seule excuse, c'est que j'ai été élevé dans la facilité. J'ai pris l'habitude et l'entraînement de la facilité et c'est ma seule excuse. Peut-être, d'ailleurs, il lui dit, dans notre enfance, c'est toujours moi qui ai pris les jouets, c'est toujours moi qui ai eu les faveurs de maman, sa tendresse. Tu aurais dû me battre. On aurait dû me battre quand je te fauchais tes jouets, tu aurais dû me battre. On aurait dû me battre. J'ai été éduqué dans la facilité. J'ai été éduqué dans ce qui est la frivolité étant beaucoup plus facile dans la vie, hélas, que ce qui est important, ce qui est consistant. J'ai vécu comme ça. Ça a été facile pour moi. Mais, où il a une forme de réalisme et quand même de conscience de ce qu'il fait, c'est que dès le départ, me semble-t-il, il s'est rendu compte que Colombe n'était pas la Colombe dont rêvait Julien, que tôt ou tard, il va la perdre. Et c'est ça qu'il lui dit.
Parce que lui est un homme à femme, en fait.
Elle n'était pas faite pour toi. Et les femmes comme les femmes, elle va aller vers la facilité, vers la frivolité, vers la tentation du moment. Elle ne vit pas forcément dans un idéal comme toi, mais est-ce que la colombe que toi, tu recherches, est-ce qu'elle existe? Et c'est l'ambiguïté de la fin de la pièce que je me suis permis de modifier par rapport à l'original de l'écriture. Arrive une colombe, est-ce que c'est une nouvelle colombe dont Julien a besoin, que Julien doit former, ou bien c'est le souvenir de la première rencontre avec cette colombe, avec la petite fleuriste, avant qu'elle ne devienne la comédienne colombe qui a choisi une autre forme de vie.
On laissera aux auditeurs l'occasion de découvrir
c'est ça,
ça
qui est
au théâtre. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est que chez les personnages d'Anouilh, quand même, on a l'impression que pour rester eux-mêmes, il faudrait qu'ils disent non, 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 non tout le temps. Sinon, ils se trahissent. Et il y avait ce mot dans Antigone, vous savez, ce mot de Créon, il faudrait ne jamais devenir grand. C'est quand même extrêmement sombre, quoi. L'idée que si on ne naît pas un héros, ben, la vie est absurde, quoi. D'où d'ailleurs Jeanne d'Arc, d'où Beckett, d'où Antigone, qui n'ont pour seule solution que la mort. C'est quand même un univers très sombre.
Oui, oui. C'est cette recherche d'idéal, je disais, notamment l'amour, semble ne pas pouvoir exister ici et que c'est ailleurs. Ou c'est un idéal, c'est un rêve. Rêver, oui, c'est beau, pourquoi pas. Rêvons, mais il y a aussi la réalité de la vie qui vous rattrape constamment et qui souvent vous prouve le contraire. Mais c'est très beau de la part d'un grand écrivain d'élever constamment le débat et d'aller vers la recherche de ce qui pourrait être un idéal et qui est si difficile. À la ville. Maintenant, il a parlé aussi, beaucoup on a senti dans l'évolution de son théâtre qui devient de plus en plus aigre,
oui, féroce.
Rempli de férocité, rempli de... C'est le problème de la famille. Le problème de la famille qui semble être si difficile à vivre, à harmoniser. Je ne connais pas bien la vie d'Anouilh. Je ne me permets pas d'entrer dans sa vie privée.
Enfin, il tenait en tous les cas à ce qu'elle soit la plus discrète possible. Il y est parvenu.
Mais on sent une tristesse vis-à-vis de la vie de famille. Aussi, il y a un thème qui est intéressant, qui est, entre guillemets, social. Il y a les nantis et ceux qui n'en ont pas.
Alors justement, la façon dont vous avez mis en scène Colombe montre magistralement cet aspect des choses. À la fois, le fait que Jean Anouilh fait vivre les gens simples de manière chaleureuse, mais sans grande illusion. Et dans cette pièce Colombe, il y a deux personnages étonnants. Il y a l'habilleuse et il y a surtout le valet, le factotum de Madame Alexandra, merveilleusement incarné par Rufus. Alors ces personnages sont des personnages hauts en couleur. Comme on dit, ils ont leur compte à soi. Ils ne sont dupes de pratiquement rien, quoi.
Oui, exact. Exact, c'est la voix du peuple, c'est la voix de celui qui doit brouter, comme dit la Surette, il doit manger. Donc, si on doit manger, il faut accepter, se plier face à celui qui vous fait manger.
Et là, le texte est très dur. Hein. Il faut savoir courber les chines, subir,
et manger le picotin avec.
Hein, oui,
voilà, j'avale le picotin avec.
Et ce que dit Rufus, je suis un salarié.
Je suis un salarié.
Pour parler crûment, je ferme ma gueule.
Voilà, et c'est le salarié qui prend les coups et qui subit les coups. Mais il y a la haine éternelle qui est là, qui est sous-jacente, qui est traité aussi dans une autre pièce qui s'appelle Le Nombril.
Oui, tout à fait. Oui.
De celui qui vous donne, qui vous fait vivre et à qui on doit le fait de vivre, de manger, et on le hait. Voilà. Et pour ça qu'on on dit dans la vie, ne faites jamais d'affaires entre amis, parce que tôt ou tard, il n'y a plus d'amitié. Ce qui est très drôle, souvent dans ces pièces, c'est qu'entre deux amis, celui qui a et qui fait vivre l'autre, celui qui le fait vivre le hait. Le hait lui dit, tu as toujours tout, est-ce que tu ne me donnais pas assez? Et tout ça, c'est tout ça.
Et c'est le réalisme d'Anouilh.
Le réalisme aussi, qui entre dans un contexte que je dirais même social ou politique, puisque c'est ce qui engendre, maintient constamment et superficiellement cette lutte et la haine des classes. Qu'il ne pointe, lui, il le pointe avec son humour féroce, mais en dessous, c'est ça.
Et en même temps, il n'a pas d'illusion, hein, parce qu'au fond, ce qu'il apprécie chez les gens simples, c'est moins le fait d'être ce qu'ils sont que le fait de subir ce qu'ils subissent, quoi. Car en fait, il les montre aussi avec leurs petites misères et leurs petites bassesses. Rufus, par exemple, le personnage de Rufus dans Colombe, va dire à Julien qu'il est cocu. Il va le faire pour se venger de sa propre histoire à lui des années plus tôt. Donc, c'est un geste de bassesse aussi en même temps.
Oui, et un collègue. Il cherche un collègue. Et il est bien content aussi, parce que Julien semble qu'il appartient, si vous voulez, à la famille de Madame Alexandra, donc qui n'est pas un salarié, semble le regarder de haut et le mépriser parce qu'il subit tout ce que lui inflige Madame Alexandra. Il est bien content de le ramener au même niveau et de lui dire, bon, moi, je subis tout parce qu'il faut que je mange. Toi, tu es son fils, hein, et tu dépends d'elle quand même, puisque quand tu as besoin, tu viens trouver qui? Tu viens trouver ta maman. Regarde pas de haut. En plus, je suis cocu. Bon, je suis cocu parce que je suis d'un niveau social, je suis laid, je suis tout ça. Toi, peut-être, tu es beau, tu es d'un autre niveau, mais le résultat est le même.
Et donc
tu
toujours
es cocu
la même...
aussi, donc nous sommes collègues.
Le même réalisme social.
Voilà,
alors,
oui, devant les difficultés et les horreurs de la vie, nous sommes tous très facilement égaux. Alors que devant le bien et devant les choses bonnes de la vie, nous ne sommes hélas pas toujours aussi facilement égaux. Pour être cocu, c'est beaucoup plus facile.
Il y a d'ailleurs un passage inénarrable là-dessus dans la pièce. Alors, il y a donc chez Anouilh, il y a les thèmes et puis il y a l'homme de théâtre vraiment fascinant. Et ça, on sent que vous connaissez bien le théâtre d'Anouilh parce qu'il y a quelque chose que vous mettez tout à fait en valeur. C'est à la fois le rythme et le jeu des oppositions permanentes chez Anouilh. Et dans la façon de monter votre pièce, vous avez vraiment joué ça à fond. L'opposition entre légèreté et farce, l'opposition entre émotion et cynisme. À tout moment, vous arrivez à faire les deux. C'est vraiment ça, Anouilh, c'est un art du théâtre, indépendamment des thèmes, il y a un art du théâtre.
C'est ça qui est passionnant, et c'est tellement passionnant et tellement gratifiant pour un metteur en scène de travailler sur un auteur, grâce à un auteur qui a su réunir tout ça. Il a un génie de la construction, parce que chaque réplique qu'on trouve au début, par exemple, et sur laquelle on risque de ne pas faire attention, on voit dans le déroulement de la pièce et vers la fin de la pièce, l'importance quand même de cette réplique qu'on retrouve. En plus,
c'est-à-dire que rien n'est gratuit, quoi.
Tout
est construit.
Non, rien n'est gratuit. En plus, il a un tel sens de la vie que la vie étant beaucoup de choses à la fois. La vie est triste, la vie est dramatique, la vie est baroque, la vie est fantastique, la vie est absurde. Et il réunit tout ça tel un Shakespeare, si vous voulez.
C'est pas un hasard d'ailleurs s'il a adapté Shakespeare.
S'il a adapté Shakespeare et ses grands thèmes. Il réunit tout ça dans une même pièce. Et il n'y a pas beaucoup d'auteurs français, je l'ai constaté, moi qui viens d'une culture anglo-saxonne, puisque c'est là-bas que j'ai été formé et joué, je me rends compte que pour les Français, une certaine tradition de théâtre français, ce qui est triste est triste, ce qui est dramatique, ce qui est comique est comique. Et même les comédiens, parfois, se trouvaient en difficulté vis-à-vis des changements d'humeur et de style dans une même pièce. Ça a été pour beaucoup corrigé depuis, parce qu'on a eu des pièces étrangères, tout ça. Donc les comédiens commencent à être plus rompus vis-à-vis de ça. Et Anouilh a ce génie, c'est de réunir en même temps ce qui est grave, ce qui est triste, ce qui est aigre, ce qui est dramatique, et en même temps ce sens du baroque, ce sens du comique,
presque
ces
de la...
contradictions.
C'est presque de la comédie dell'arte, par exemple.
Oui, des contradictions formidables, comme je disais dans la scène Madame Alexandra, où elle parle de l'idéal, de l'amour, tout ça, et tout de suite après, tout cela s'écroule, mais comme un immense château de cartes, parce qu'on parle de fric, on parle d'action, on parle d'argent, et évidemment, l'argent semble avoir nettoyé
et
détruit tout cet aspect formidable, fantastique, démesuré des dimensions que peut prendre l'amour, la passion. Et c'est formidable comme outil dramatique,
oui,
comme outil théâtral. C'est l'art du théâtre.
Il y a un autre
exemple. Peu d'auteurs ont atteint à ce jeu, à cet équilibre et déséquilibre que Anouilh, c'est fantastique.
Vous pensez pas qu'un Marcel Aimé a quelque chose de ça aussi ?
Sûrement, c'est quand même... Il vient d'une époque de grand théâtre et d'auteurs qui savaient construire, qui savaient vraiment... Et c'est pour ça que j'ai lu aussi quelque part dans un des articles, à la suite de Colombe, et j'en suis ravi, que Anouilh a atteint, a gagné ses galons d'auteur classique.
Oui.
Et bon, si on parle du fameux Molière, on a parlé de Shakespeare, on parle de Molière. Molière est constamment, constamment, et c'est ça la difficulté de mettre en scène les pièces de Molière, c'est qu'il est constamment tragique, comique, dénonçant, dénonce, couvert aussi à cause du fait qu'il était subventionné par ceux-mêmes dont il se moquait, y compris la religion. Et c'est masqué sous le dérisoire, le comique, l'innocence, alors que ce n'est pas innocent du tout.
Ouais. Et Molière est un auteur tragique, en fait.
On peut.
Fondamentalement.
On peut dire.
Il est drôle, mais il est tragique.
On peut dire, tout comme Anouilh, on parlait du pessimisme et de tout ça, est un auteur, on peut dire, un auteur comique.
Alors vous, il y a quelque chose quand même d'étonnant, dont vous avez un metteur en scène fait quand même assez souvent cela. C'est la deuxième fois que vous mettez en scène Colombe. La première fois, c'était en 1996. Si j'ai bonne mémoire, c'était Geneviève Pave qui jouait...
Et Roussillon.
Oui, c'était Roussillon. Et qu'est-ce que vous avez... Quand on monte comme ça, 14 ans après une pièce, est-ce que vous avez cherché à apporter quelque chose de nouveau ?
Je n'ai pas tellement l'occasion de remonter des pièces que j'ai montées. Surtout des pièces que j'ai montées, permet de dire, que j'ai montées bien, puisqu'à l'époque, j'étais et on était très contents du résultat. Cette fois-ci, ce qui m'a frappé, si vous voulez, en travaillant, ce n'était pas prémédité, ce qui fonctionnait à l'époque, ce qui avait fonctionné, que j'ai gardé, les changements à vue, tout l'aspect technique. Par contre, il s'est créé, en moi, si je puis dire, dans le travail, une évolution dans le travail des personnages et dans le travail avec les comédiens sous les personnages. Je me rends compte que je me suis fait beaucoup plus l'avocat de chaque personnage, essayant de donner à la fois tort et raison à chaque personnage, de dépister vraiment le pourquoi de leur attitude et de leur comportement.
Alors cela, vous étiez fidèle à Anouilh, parce qu'Anouilh, c'était pas blanc et noir, Anouilh.
Je crois, c'est un peu prétentieux peut-être ce que je dis, que je me suis rapproché encore plus, peut-être, de ce qu'avait voulu consciemment ou inconsciemment, parce qu'on sait que chez les grands auteurs, il y a aussi une part d'inconscience. Les personnages, parfois, leur échappent de ce qu'il a voulu à travers ces personnages. Et c'est bien aussi que le spectateur puisse prendre parti et donner raison à tel personnage et tort à tel personnage, alors qu'il y a un ensemble de torts et de raison chez chacun, sauf les monstres. Il n'y a pas de réel monstre dans Colombe.
Non, non, il y a
pas vraiment.
Il y a à la fois tout le tragique de la dimension humaine.
Oui,
quoi.
C'est la dimension humaine.
Mais là, par exemple, avec la complexité de tels personnages, donc vous avez une comédienne chevronnée, Annie Dupéré, mais sa fille qui est une jeune comédienne, avec laquelle ça a été le, si je peux me permettre cette question, hein, avec laquelle ça a été le plus facile de rentrer dans cette complexité des choses. Est-ce que
Annie, si vous voulez, le plus de travail, mais dans le bon sens du terme, a été beaucoup plus avec Colombe. Avec Colombe, parce que trouver exactement sa ligne sans la condamner, pouvoir lui donner son cheminement et le pourquoi de son choix, alors qu'elle va devenir quand même la maîtresse de son beau-frère, qui peut paraître pour le moins, j'ai dit pour le moins, gênant vis-à-vis de son mari, quel que soit le bien fondé de sa révolte et de son choix. Donc, il a fallu trouver, travailler avec elle, l'équilibre humain du personnage. Alors que le personnage baroque énorme de Madame Alexandra
oui.
Est, si vous voulez, plus évident. Plus évident, mais j'ai quand même souligné avec Annie, ce qui d'ailleurs lui a fait plaisir, la dimension humaine des choses.
Oui, c'est parce qu'à la fin, on a presque pitié d'elle. Quand on la voit de dos saluer
à quel prix est-elle devenue Madame Alexandra ? Puis elle a à se défendre constamment face à des solliciteurs. Mais
et puis
surtout,
l'âge aussi, et l'âge.
L'âge, bien sûr, hélas. Mais le plus important, je crois, pour moi, dans le cheminement du personnage, c'est qu'un homme s'est suicidé à cause d'elle, pour elle. Et si elle en admet sa part de culpabilité, qui est représentée par Julien, vis-à-vis du suicide de son mari, ça, elle ne peut pas le supporter. Et elle ne doit pas tomber dans une possibilité de culpabilité de sa part. Et c'est pour ça que, hélas, et c'est la malchance de Julien, qu'elle le rejette avec une telle férocité et qu'elle a autant d'égards, de tendresse et de facilité et générosité vis-à-vis du second fils, Armand, qui est le fils d'un jockey qu'elle a aimé et qu'elle entretient toujours.
Mais autrement dit, elle porte en elle sa souffrance intime, profonde.
Oui, elle doit éviter. Vous savez, je crois que c'est aussi une des leçons d'Anouilh et des grands auteurs, c'est que dans la vie, on essaye de se démerder comme on peut. Voilà, chacun comme on peut. Et chacun trouve son autodéfense. Et cette espèce de solitude dans laquelle va s'enfermer Julien, parce qu'on a l'impression qu'il ne changera pas. C'est son autodéfense, parce que c'est le fils de son père.
C'est toujours le déterminisme voilà. Qu'on trouve chez Anouilh, oui. Alors, on ne va pas faire un cours d'université en refaisant toute l'histoire du théâtre d'Anouilh. Je voudrais simplement vous poser deux ou trois questions sur des moments repères de cette histoire. Donc, il a, en 1930, il a 20 ans, il est le secrétaire de Jouvet, et ça se passe très mal.
Oui.
Et pourquoi ?
Pourquoi ça se passe très mal ? Je ne connais pas bien les dessous. Je crois que j'ai l'impression que Jouvet méprisait un petit peu les gens avec qui il travaillait. Je crois qu'il ne les mettait pas au niveau auquel ils auraient pu. Et il a toujours refusé. Il n'a jamais voulu monter les pièces d'Anouilh. Je crois qu'il le considérait comme un secrétaire et non pas comme un auteur.
Je crois que ça s'est produit
d'ailleurs. Ça a meurtri beaucoup Anouilh.
Parce que quand Anouilh a eu sa première pièce à succès, il n'avait que 27 ans. Au fond, en 37, c'est le Voyageur sans bagage. Jouvet a refusé de la monter, non ?
Oui.
C'est quand même terrible.
Et je crois aussi qu'il a... Je ne sais pas si c'était l'époque de Colombe. Il n'a jamais voulu monter une pièce de...
C'est quand même...
Non. Et il a fallu, je crois, le Voyageur sans bagage a été créé par Peter F. Et il a fallu que ce soit quelqu'un d'autre du cartel qui ait monté la pièce de... Et je crois qu'Anouilh a souffert beaucoup vis-à-vis de ça. Et ça fait partie de ces zones d'aigreur par moments qui ressortent quand même dans son théâtre. Et les rapports, la surette, Madame Alexandra, je ne dis pas que c'est les rapports à Anouilh Jouvet, mais sûrement quelque part,
ça. Ouais. Alors, la deuxième chose, c'est donc, toutes les critiques qu'on a pu adresser à Anouilh sur son silence pendant la guerre, ne pas avoir pris parti entre Vichy et la Libération. Oui, le mouvement de la libération, les résistants. Et pourtant, sa pièce la plus célèbre, Antigone en 1944, a été construite sur un fait réel de la résistance. Donc ce garçon qui s'appelait Paul Colette et qui, en 1942, a tiré sur Déa et sur Laval. Donc il y a quelque chose d'étonnant chez Anouilh. Il se tait. Et pourtant, il prend comme argument de sa pièce qui restera la plus célèbre, même si elle a été un bide d'ailleurs, elle a fait un bide au lancement en janvier 44, février 44, il prend comme argument un fait de résistance. Alors, comment vous interprétez cela? D'autant qu'à la Libération, avec d'autres, avec Camus, avec Marcel Aimé, il va essayer d'obtenir la grâce de Brasillach. Mais là, pour des raisons, je dirais, humanitaires.
Humanitaires. Plus littéraires.
C'est
aussi
ça. Voilà.
Littéraires.
Comment vous expliquez
ça? Je me demande si... Anouilh, c'est un personnage qui se cache. Aussi, je crois qu'il y a beaucoup de pudeur, aussi, en même temps. Il se dévoile beaucoup plus à travers ses pièces qu'à travers son contact humain, je crois. Je déduis, je n'ai pas eu la chance ni l'occasion de connaître Anouilh très personnellement, donc je me permets de juger beaucoup plus à travers ses pièces, à travers le travail.
C'est l'essentiel.
J'ai pu faire sur ses pièces. Et il est contre le totalitarisme, c'est évident, et contre le fanatisme, et contre... Mais en même temps, il se méfie beaucoup, je dirais, entre guillemets, de la sagesse populaire et de la bêtise populaire. Et je me demande... C'est le côté de la bêtise populaire et de la façon dont on peut manipuler la foule.
Je ne sais pas si aujourd'hui il pourrait supporter les sondages, lui.
Oui, et puis le... on parlait football.
Oui, avant l'émission.
La bêtise.
Notre passion commune, la bêtise des supporters.
La bêtise des supporters qui arrive à se taper les uns contre les autres. Enfin, bon.
Alors, troisième question sur son itinéraire, hein, et on en restera là en termes d'itinéraire. Après la guerre, il connaît un grand, grand succès, 20 ans de grand succès. La bourgeoisie le porte au nu. Et aujourd'hui, on a l'impression, alors que quand on regarde la façon dont il décrit la bourgeoisie dans ses pièces, c'est assez horrible. Et pourtant, elle le porte nu. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, il connaît une forme de purgatoire et que la bourgeoisie regarde Anouilh avec défiance. Comment vous expliquez cela? Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'il lise les pièces autrement? Ou est-ce qu'il les comprenne autrement?
Je crois que c'est reçu autrement et que la société, si vous voulez, la socialisation et les bonnes consciences, tout ça, beaucoup a évolué. N'oublions pas, il y a eu tout ce qui a été récupéré après mai 68, le mépris vis-à-vis d'une certaine classe et aussi la réaction qu'on tue une certaine classe qui se voulait intellectuelle, et qu'il est peut-être... Pourquoi pas, vis-à-vis d'un théâtre bourgeois. Et on a considéré que tout le théâtre, tout ce qui était bien construit, compréhensible, était méprisable.
Autrement dit, Giraudoux, Anouilh, Monterland.
Il fallait que les choses soient compliquées. Il fallait absolument qu'il y ait des poubelles renversées. Et il fallait que, à bas le texte, le happening, tout ça. Et on ne s'est pas rendu compte, ou on n'a pas voulu se rendre compte, parce que c'est vrai aussi qu'à une époque, le théâtre était beaucoup plus accessible à des gens qui pouvaient se payer le prix des places et que des gens qui avaient fait beaucoup moins d'études estimaient, craignaient, pensaient que le théâtre n'était pas fait pour eux, qui étaient étonnés tout d'un coup lorsqu'ils voyaient une pièce et qui pouvaient la comprendre, que c'était pour tout le monde. Et on ne s'est pas rendu compte jusqu'à quel point le théâtre d'Anouilh, qui parlait beaucoup de la bourgeoisie, bien sûr, qui dépeignait avec quelle férocité la bourgeoisie, avec une même férocité aussi le bas-peuple, mmh. Il ne s'est pas rendu compte jusqu'à quel point
aussi, hein.
L'aristocratie,
le boulanger,
jusqu'à
la boulangère,
quel point
le petit mitron,
c'est une pièce populaire. Et moi, je dis que lorsque j'ai monté Colombe, à l'époque et maintenant encore, je dis, mais c'est une pièce populaire. Et le théâtre que nous faisons, je souffre de ça un petit peu à la Comédie des Champs-Élysées, parce qu'on croit, étant donné que c'est un théâtre un peu élégant, un peu tout ça, situé avenue Montaigne,
un des plus beaux quartiers de Paris.
À Montaigne, on croit que c'est un théâtre chim-chim, que c'est un théâtre fait avant tout pour des gens d'une certaine... Et pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je suis tellement ravi que Anouilh regagne beaucoup de popularité et ait du succès, et un succès populaire, puisque c'est le cas de Colombes, et ça a été le cas déjà il y a 13 ans, quand je l'avais monté, et où il était tombé dans une certaine disgrâce. J'ai eu la joie de lire dans une critique à l'époque, Fagadeau a réussi à réconcilier Anouilh avec la critique. Quel honneur pour
le
moi.
Le plus important, c'est peut-être que vous ayez fait venir les comités d'entreprise et que les gens soient très contents.
Ils viennent, ils adorent.
Oui, ça, je l'ai constaté moi-même. Oui.
Aujourd'hui, c'est un succès populaire.
Mm-hmm. Au fond, c'est un théâtre de l'intelligence, de l'esprit, du brio, et puis c'est une langue.
Et c'est une langue, c'est une construction, c'est un sens du théâtre et c'est un sens de la vie.
Donc vous le mettez à quel niveau, vous, dans les grands auteurs de théâtre du XXe siècle français, vous le mettez à quel niveau? Si on pouvait, c'est un peu un jeu, hein.
Oui,
mais Anouilh, c'est quoi?
Giraudoux était formidable Giraudoux. Aussi, parce qu'il avait...
Giraudoux qui l'a profondément marqué, parce que la première fois qu'il a vu Siegfried, il a pleuré, Anouilh, en disant « j'ai découvert ce qu'était le langage du théâtre, qui n'est pas exactement le langage de la vie.
Oui,
il y a une création. »
C'est une création, oui. Ionesco est grand. Très différent d'Anouilh, puis il a beaucoup moins construit, beaucoup moins clair. Il vient quand même d'une époque de grand théâtre, de vrai théâtre, et un vrai sens de la vie. Et je dis, il y a quelque chose aussi de shakespearien dans son... Comme vous dites, c'est pas pour rien qu'il s'est emparé de certains thèmes. Et il y a quelque chose de shakespearien aussi dans ce mélange de baroque, de comique immense, de férocité, de générosité et d'idéal. Aussi, quand vous avez dit ces prises de position quasi politiques, il me revient un souvenir, c'est qu'il a été un des premiers défenseurs du théâtre d'avant-garde et notamment de Naïve Zirondelle, sur lequel il avait écrit un article. Je me souviens, ça a été l'époque où moi j'ai débuté au théâtre et ça avait été massacré par une certaine critique. Et Audiberti, Anouilh, Roussin avaient fait chacun de leur côté un article défendant Naïve Hirondelle et le théâtre d'avant-garde, dont eux ne faisaient pas partie, qui était d'ailleurs regardé un petit peu avec mépris par les avant-gardistes, comme a été le nouveau cinéma par les cahiers.
Oui,
cinéma,
voilà,
vous savez, il y a eu une espèce de collusion.
Il y avait des dictates.
Un dictate
oui.
dont nous avons souffert. Longtemps, hein, ceux qui voulaient faire un théâtre sain et qui voulaient rester dans un théâtre de vie et non pas un théâtre de haut niveau culturel, intellectuel,
supposé,
obscur
supposé,
et supposé, prétentieux avant tout.
Mais quand vous parlez de Naïve Zirondelle, il a aussi été le premier, je crois, à soutenir Beckett et En attendant Godot.
Oui, oui, absolument.
Donc
oui,
il était à l'affût de la création en même temps.
Il était à l'affût de la création
et
à l'affût de... tout ce qui était de talent, tout ce qui avait talent, et non pas une volonté, une prétention d'élever le débat tel pour que le commun des mortels puisse ne plus rien comprendre, puisque certains se sont déshonorés. Je n'attaque pas une certaine forme de théâtre qui peut se reconnaître toute seule, qui est vexée lorsque le public,
le grand public
comprend tout.
Oui. L'injure la plus grande est en théâtre de boulevard.
Oui, oui, ils sont déshonorés.
Oui, oui. Mais d'ailleurs, la preuve de ce que vous dites dans l'attitude d'Anouilh, c'est le fait qu'il est quand même, je crois que c'est plus d'une vingtaine de films ou de téléfilms, leur doivent les dialogues.
Oui, oui,
donc,
absolument.
Madame II, Max Ophuls, c'est lui,
absolument.
La Ronde, c'est lui.
Absolument.
Alors, question très personnelle. Hein. Vous venez donc pour ce spectacle d'obtenir 4 nominations pour les Molières, quelles que soient les conditions hein, dans lesquelles ces nominations sont obtenues, et ça prête toujours à contestation. Donc, Molières qui seront décernés le 25 avril prochain. Est-ce que ça vous amène à regretter encore plus de n'avoir jamais pu monter une pièce d'Anouilh avec lui de son vivant?
Avec lui de son vivant, bien sûr, ça a été un honneur. Cela dit, m'aurait-il laissé mettre en scène, parce qu'il mettait en scène lui-même ses pièces.
Oui, enfin, à votre époque, il avait un complice qui était Pietri, Roland Pietri.
Qui était Pietri, mais dû au fait qu'il savait très bien ce qu'il voulait dire, la complexité, les contradictions voulues dans ce qu'il voulait dire, la part faite au ceci et au cela, le mélange des styles Et il était très exigeant vis-à-vis des comédiens, et notamment des comédiens français de cette époque, qui n'étaient pas aussi rompus que maintenant à ce mélange de styles et à ce mélange de genres. Et puisqu'on parle des Molières que je déteste, j'ai toujours pris position anti-molérienne. Je ne veux pas polémiquer ici.
Non, c'est pas,
mais
c'est pas
mais j'en regrette quand même beaucoup qu'on n'ait pas saisi cette occasion de rendre hommage, le vrai hommage à Anouilh. Je crois que Colombe est le meilleur spectacle qu'on puisse voir aujourd'hui. J'ose l'affirmer. Et je crois qu'on aurait pu saisir l'occasion de lui rendre hommage à travers Colombe, à travers son théâtre, à travers l'auteur qu'est Anouilh, et dont on n'a pas aujourd'hui, parmi des auteurs vivants, il y en a quelques-uns, mais on n'a pas beaucoup d'Anouilh.
Donc, autrement dit, faire une sélection des nominations dans des catégories différentes de celles qui ont été faites, quoi. Voilà, c'est ça.
Meilleur spectacle, meilleur théâtre spectacle, privé, voilà. C'est évident. Vous savez, il y a 400 votants, il y en a 20 qui ont vu Colombe.
Oui, alors,
ça veut tout dire.
Oui. On va laisser cet aspect-là des choses parce que c'est encore plus triste que le théâtre d'Anouilh.
Puis ça donc, va un peu personnel.
Quand on fait la liste des acteurs qui ont servi Anouilh, Pitoëf, Barrault, Freinet, Perrier, Bouquet, Suzanne Flon, comment expliquez-vous cette passion qu'ils ont eue pour Anouilh, en fait ?
C'est une passion que je trouve, si je puis me définir homme de théâtre, absolument normale. D'abord, les rôles sont formidables, puisque ça donne des tas de possibilités d'un ensemble de comportements à la fois comiques, baroques, tragiques. Et c'est des grands comédiens face à un grand auteur et face à ce qu'on appelle des rôles écrits pour les comédiens.
Autrement dit,
pour de bons comédiens.
Il faut être capable de jouer sur tous les registres. En même temps,
voilà,
pratiquement.
Voilà,
pratiquement.
Voilà,
et en même temps, il adorait les acteurs. Ça, on le sait assez peu, mais c'est Brigitte Bardot qui le dit souvent.
Oui.
Il a quand même fait jouer Brigitte Bardot en 53, donc elle n'était quand même pas vieille, hein, dans L'invitation au château.
Absolument.
Et elle avait une peur inouïe le soir de la première. Vous vous souvenez de l'anecdote ? Il est allé vers elle très gentiment et il lui a dit « Ne soyez pas inquiète, je porte chance. »
Ah oui.
C'est quand même d'une gentillesse. C'est
une... C'est très beau. Bien sûr qu'il aimait les comédiens parce qu'il aimait le théâtre et parce que lui-même, donc je crois qu'il avait une certaine pudeur à s'exprimer à la ville, ce qu'il était réellement. Il s'est tellement exprimé à travers les comédiens et à travers son théâtre. Donc c'est normal qu'il ait aimé les comédiens et c'est normal aussi que les comédiens qui l'ont joué, qui l'ont interprété, l'adorent. Je connais la mère de ma fille qui a eu la chance, Vianel Basque, qui a eu la chance de jouer Les Poissons Rouges, Beckett, Ne réveillez pas Madame, a une passion, a gardé une passion pour Anouilh.
Alors quand on...
Comme Bouquet, comme Marielle, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, et qui m'a parlé d'Anouilh, qui a joué Les Poissons Rouges.
Et même Mondy aussi.
Mondy, bien sûr, Galabru, tout ça, ils adoraient Anouilh.
Puisqu'on parle là d'un très très grand dramaturge, je vais me permettre de vous poser une question bateau, hein, mais à travers un cas comme celui-là, pour vous qui vraiment vivez du théâtre, mais je veux dire à l'épiderme, qu'est-ce qui fait la magie du théâtre au fond ?
La magie du théâtre, c'est par rapport à l'image, alors qu'on est tellement gavé d'images. Je crois que c'est le contact humain, l'immédiat, l'imprévu, le danger. Au théâtre, ce qui se passe ce soir ne se passe que ce soir. Ne s'est pas passé hier, ne va pas se passer demain. Vous voyez un film, sauf s'il y a une panne d'électricité ou l'appareil, le film se casse, il n'y a pas de danger. C'est fait, c'est mis en boîte, c'est costaud, c'est fait. Au théâtre, il y a la fragilité humaine de tous les soirs. Et c'est pour ça que le public adore être complice d'un incident qui se passe devant eux aujourd'hui et qui ne va pas se reproduire demain et qui ne s'est pas passé hier.
Une course de taureau sans mise à mort ?
Si, il y a possibilité de mise à mort, justement constante. Et puis je crois que la solitude dans laquelle on vit, on est incognito dans une salle de cinéma. on n'est pas incognito au théâtre. D'ailleurs, c'est ce qui crée en même temps le revers de la médaille et la difficulté. Parce que quand on va au théâtre, on existe, on est vu. Il faut peut-être s'habiller d'une certaine façon, avoir une certaine attitude. Tandis qu'au cinéma, et c'est pour ça que les gens ne vont plus facilement au cinéma.
Et vous voulez dire
qu'on
peut
dormir,
oui.
On peut... voilà.
Mais au théâtre, on forme une communauté entre acteurs et spectateurs.
On est un peu acteurs eux-mêmes. Nous-mêmes, on est acteurs. Puis on vous parle. On vous parle, on s'adresse. Pourquoi aussi le succès des One Man Show ? C'est que vous parlez aux gens. Vous leur parlez et on leur parle. Je cite une toute petite anecdote personnelle, puisque vous m'avez posé la question. J'ai dû remplacer au pied levé un comédien, moi, dans un de mes spectacles, Le Miroir, je crois. Alors, j'ai eu l'astuce, le cabotinage, de faire une annonce en disant « J'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. » La bonne, c'est que mon autre camarade, qui est malade, se porte beaucoup mieux. Et il va revenir très vite. La mauvaise, c'est que c'est moi qui le remplace ce soir. Les gens ont ri, ont applaudi. J'aurais pu faire n'importe quoi.
Ils vous ont porté.
J'ai eu un triomphe.
Ils vous ont porté.
Mais un triomphe. J'ai créé un climat de sympathie avec le public et j'aurais pu faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans une des scènes importantes, un camarade, il m'a dit « Mais écoute, je ne peux plus rien dire, rien faire, ils sont tous de ton côté. Alors, ce n'est pas possible, ne fais plus d'annonces. » Et effectivement, j'ai arrêté.
Vous avez arrêté, mais ce qui est extraordinaire, ce que vous dites, c'est que ça nous ramène à nous, et au fond, vous employez le mot « sympathie », mais c'est l'étymologie du mot « sympathie », « sympathie », « souffrir avec ». Et la magie du théâtre, c'est ça, c'est « souffrir avec ».
On vit complètement avec ce qui se passe maintenant, pas demain. Pas la veille.
Et c'est la raison pour laquelle vous, on peut dire qu'il y a des acteurs qui n'apprécient pas beaucoup, mais c'est à l'honneur de votre métier. Vous êtes là, vous suivez une pièce pendant des semaines et des semaines. Vous ne laissez pas filer, comme on dit.
Non, je ne laisse pas filer. Je dérange, parfois, parce qu'ils ont déjà eu un contact avec le public et moi, je viens dire attention, là, non, là, ce n'est pas comme ça. Il faut, non, ne vous laissez pas influencer ou prendre au piège de ce qui n'est pas ce qu'a voulu l'auteur.
Autrement dit, à ce moment-là, vous êtes un artisan au service du génie, quoi. C'est un peu ça, on peut dire, si on parle...
Oui.
C'est ça ?
Si on parle d'Anouilh, on peut parler de génie. Oui.
Merci Michel Fagallo d'être
Merci
venu
à
rendre
Ça
hommage à Jean Anouilh, donc en cette
Merci
année
beaucoup.
Du centième anniversaire de sa naissance. Un anniversaire donc, que vous célébrez, donc, je le disais, plus que dignement, donc, en ayant mis en scène Colombe à la Comédie des Champs-Élysées, le théâtre que vous dirigez. Un spectacle dont je rappelle qu'il a obtenu 4 nominations pour les Molières, qui seront décernées le 25 avril prochain. Un spectacle où les deux principaux rôles sont tenus par Annie Dupéré et sa fille Sarah Giraudeau. Et c'est vraiment un moment de théâtre très fort, qui rappelle toute l'actualité de l'immense talent de Jean Anouilh. Alors je signale également la parution toute récente dans l'excellente collection Folio Théâtre de l'une sans doute des 2 ou 3 plus grandes pièces de Jean Anouilh, Beckett ou L'honneur de Dieu. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.